Nous sommes dans l'étude des psaumes jusqu'à quelques dimanches encore, ok? Nous sommes au psaume 118, donc je vous invite déjà à aller dans votre Bible, le psaume 118. Donc ce matin, nous étudions un psaume bien particulier. Et certains pensent que l'auteur est le roi David, mais il n'est pas nommé, quand on va lire tantôt, là, il n'est pas nommé l'auteur. Souvent, quand c'est David, il dit le roi David ou de David. Psaume de David, mais dans ce cas, il n'est pas là. Il n'est pas mentionné. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas David. Peut-être oui. Il est également possible que ce soit un autre roi aussi qui a écrit ce psaume, un personnage même issu de la lignée royale même. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui vivait à l'époque du retour de l'exil. Vous vous rappelez quand le peuple retournait de l'exil, il y avait une grande joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconstruit quoi? Le temple. Ils ont reconstruit aussi quoi dans le temps de Néhémie, parce qu'Esdras nous raconte quand le peuple a reconstruit le temple, mais Néhémie nous raconte quand le peuple a reconstruit aussi les murailles. Donc c'était des jours de réjouissance, ils sont revenus de l'exil, Dieu avait promis que dans 70 ans ils pourraient retourner, puis là ils sont de retour, ils sont dans la joie. Ça se peut que c'est quelqu'un qui était dans cette époque-là de la lignée royale. Qui était de la lignée royale? Question d'examen dans la période c'était Zorobabel, c'est ça? Zorobabel, c'était de la lignée royale. Donc, et peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a écrit ces psaumes-là et probablement aussi composé pour célébrer une grande délivrance du peuple. On va le voir quand on va le lire, comme celle de l'Exode. Je ne pense pas qu'il ait écrit à cette période-là, mais il fait rappel à cette délivrance de l'Exode, là où Dieu a appelé son peuple de l'esclavage de l'Égypte pour le sortir et pour lui donner la terre promise. Ou encore là, ça peut être, moi je crois peut-être que ça a été au retour de l'exil, là, ce qu'on va lire, ce qu'on va voir, on va entendre. Peut-être lors de la dédicace du temple reconstruit, ou même de la dédicace des murailles aussi. C'était un temps de réjouissance. Et le psalmiste célèbre la fidélité de Dieu. Et même au cœur de l'opposition, et le peuple reconnaît que la victoire est l'œuvre de Dieu seul. Donc, mais ce chant, ce psaume-là, il n'est pas seulement un chant de victoire pour Israël. C'est un psaume qui résonne même dans la bouche de notre Sauveur Jésus. Juste après, qu'est-ce qu'on a célébré tantôt? Le repas du Seigneur, la Sainte Cène qu'on appelle aussi, juste après l'avoir institué, on voit ça dans les évangiles, la nuit même qu'il allait être livré, il a chanté ces psaumes-là, probablement. L'évangile selon Matthieu nous dit qu'après avoir chanté, c'est-à-dire après le repas, et après avoir chanté des psaumes, il s'est rendu au mont des Oliviers. Donc ces psaumes-là, parce qu'il a chanté plusieurs psaumes, et les Juifs étaient habitués à chanter des psaumes lors des temps de réjouissance. Mais dans le cas de Jésus, c'était un temps de réjouissance dans le sens qu'il allait donner sa vie pour nous sauver, mais quand même, il va à Gethsémani. Après, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié Dieu parce que la coupe était très dure pour. Il allait prendre. Non, il allait passer par la croix. Il allait souffrir. Donc, ces psaumes que Jésus a chantés avec ses disciples ce soir-là sont probablement les psaumes 113 à 118. Qu'est-ce qu'on appelle le Hallel ou Hallel? Ce sont des cantiques de louanges chantées lors des grandes célébrations comme la Pâque, comme la fête des moissons pour les Juifs ou la fête des cabanes ou des tabernacles. Donc, mais imaginez, frères et sœurs, Jésus vient de prendre le pain et de dire: ceci est mon corps. Il vient de prendre la coupe et dire: ceci est mon sang de l'alliance. Et juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Il chante. Il chante des paroles inspirées, dont certaines des paroles parlent de détresse, du secours, mais aussi de la victoire du juste. Il parle aussi de la fidélité de Dieu, surtout d'une pierre rejetée devenue la pierre de l'angle. Ça résonne un peu dans vos oreilles, vous l'avez déjà lu, vous avez déjà entendu cette expression-là. Jésus chante en se préparant à la croix. Il sait ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il attend, Jésus? Il attend l'abandon, la souffrance, le rejet Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il chante la fidélité de Dieu. Il chante la bonté de Dieu. Il chante la bienveillance de Dieu. Ce psaume est probablement le dernier cantique de Jésus avant Gethsémané. C'est un chant prophétique aussi, qui trouve son accomplissement en Jésus. Encore là, la pierre angulaire, de la pierre principale de l'angle. Mais ce texte nous révèle aussi le plan merveilleux de Dieu pour le salut. Et on l'a chanté en annonçant l'entrée triomphale du grand roi, le Messie promis. Donc aujourd'hui, nous voulons méditer sur ces psaumes que Jésus a chanté, notre Sauveur, juste avant de souffrir pour nous. Nous allons le faire dans 6 sections. Ça va aller rapidement, OK? 6 sections, à peu près 20 minutes chaque, ça fait 120, donc imaginez. On va le faire assez vite, là. Un appel, n'ayez pas peur. C'est un appel à la reconnaissance, ça commence avec un appel à la reconnaissance. OK, le psalmiste, il mentionne que Dieu est un refuge dans la détresse, c'est pour ça qu'il le loue. Il donne la victoire face aux ennemis, agit avec puissance en faveur des justes, exauce la prière et révèle son plan merveilleux. Et Dieu, il finit par en disant que Dieu est la source de joie et de sa louange. C'est fini. C'est juste ça qu'on va voir en ce matin. Mais allons petit à petit. Donc, on ne va pas lire tout le psaume maintenant, c'est 29 versets, mais on va lire graduellement. C'est bien? Je vous propose ça. Donc, les premiers 4 versets. Vous avez déjà vos Bibles dans psaume 118? Oui. Donc, les premiers 4 versets. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Dans d'autres versions, on trouve aussi, car sa miséricorde dure à toujours. Et c'est là, il me semble qu'il répète beaucoup cette expression, c'est ça? Donc, célébrez, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est bon, car il est bon. Qu'Israël dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent quoi? Car sa bienveillance dure à toujours. Donc, célébrez, car il est bon, il dit. Qu'Israël le dise. Quoi d'autre? Israël, c'est le peuple, non? Et qu'Aaron, la maison d'Aaron, représente qui? Les sacrificateurs, ceux qui travaillaient dans le temple. Les responsables du peuple de Dieu, mettons. Eux aussi qu'ils louent. Mais en fait, dans la troisième fois, il dit que tous ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire que tous ceux qui croient, tout le monde ensemble, puissent louer l'Éternel, car sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde dure à toujours. Donc cet appel, c'est un appel, pas juste... Le psalmiste, c'est sa louange personnelle. C'est vrai, quand il a écrit, je crois que c'est dans son cœur, il y avait un chant de louange pour Dieu. Mais le psalmiste, même si c'est un psaume qui est comme particulier à lui, personnel, il invite les gens à louer aussi. Vous allez voir là qu'il parle de lui, après il parle du peuple. Il parle aussi à ses ennemis, même peut-être, dans d'autres versets. Mais il invite le peuple à louer le Seigneur, à louer l'Éternel. C'est un appel à tous ceux qui croient, tous ceux qui ont goûté de sa grâce dans leur vie. Et cette joie nous rappelle aussi le jour où les Israélites ont commencé à recommencer la construction du temple à Jérusalem. Je vais aller rapidement dans Esdras. Il dit, lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple, ont mis en place les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin de louer Dieu, et après les indications de David, roi d'Israël, ils faisaient les réponses. Donc ils chantaient en répondant, en louant et célébrant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa bienveillance pour Israël dure à toujours. Peut-être qu'il est en train de raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Dans Esdras 3, 10 à 11. Est-ce que vous pouvez dire comme le psalmiste, je loue le Seigneur car sa bienveillance dure à toujours? Oui, malgré vos souffrances, malgré ce que vous êtes en train de vivre maintenant, est-ce que vous pouvez dire, comme ce psalmiste, sa bienveillance dure à toujours? Et dans sa bienveillance sont compris aussi nos épreuves. C'est vrai? Notre cœur sont là aussi nos souffrances. Tantôt, Benjamin avait dit que le repas du Seigneur, on ne peut pas le faire tout seul à la maison. OK? Célébrer la Sainte Cène, on ne peut pas le faire tout seul. C'est quelque chose qu'on le fait en famille, en église, en peuple de Dieu. On le fait. La louange aussi, frères et sœurs, ce qu'il est en train de dire, le psalmiste. C'est vrai qu'il loue personnellement Dieu, mais il invite à tous. Nous louons l'Éternel. Et sachez que c'est édifiant quand on entend des témoignages. C'est vrai? Quand quelqu'un dit, je loue le Seigneur parce que, je loue le Seigneur parce que il m'a délivré de cette épreuve. Je loue le Seigneur parce qu'il m'a permis d'avoir un bon travail. Je loue le Seigneur parce que j'ai perdu mon travail. Mais je sais qu'il répond à ma prière. Sa grâce ne s'éteint pas. Sa grâce durera toujours. Et dans les versets suivants, je pense que vous avez beaucoup de raisons pour dire « car sa bienveillance durera toujours ». Mais le psalmiste, dans les prochains versets, il va donner quelques raisons pourquoi. Donc, dans le verset suivant, il dit que Dieu est un refuge dans la détresse. On l'a chanté tantôt. Ça tombe bien. Donc, du verset 5 à 9. On va le lire, 5 à 9. « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier aux nobles, aux puissants, dont le psalmiste rend témoignage du fond de la détresse. Il dit, Dieu répond. Il délivre quand on l'invoque. Le psalmiste dit, l'Éternel est mon secours. Je peux donc regarder face à mes ennemis. Je peux les regarder. Quand on n'est pas avec Dieu, frères et sœurs, là, on a peur des ennemis, hein? On se cache. Mais le psalmiste dit, je peux les regarder. Vous vous rappelez David, face à Goliath, est-ce qu'il s'est caché? Non, il dit, au nom de l'Éternel, il dit, en gros, comment on appelle ça, là? La lance qu'il avait, là. Et moi, je me présente devant toi. Qu'est-ce qu'il avait dit? David, au nom de l'Éternel, je me présente devant toi. Le nom de l'Éternel devient, pour le psalmiste, devient son assurance. Il affirme que la confiance en Dieu est bien meilleure que celle qu'on peut avoir des hommes ou des puissants. C'est vrai que des fois, on se confie au médecin, on se confie à l'homme pour des choses, OK? Mais la parole dit que mieux vaut se confier à l'Éternel. Si on va au médecin, on va à l'hôpital, si on visite quelqu'un pour un, je ne sais pas, pour une question, on va passer une entrevue de travail, c'est vrai, on fait confiance aux gens. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est de se confier à Dieu lui-même, à Dieu en premier, pour qu'il puisse diriger toutes choses. La confiance en Dieu est bien meilleure que celle qu'on peut avoir des hommes ou des nobles ou des puissants. Vous vous rappelez Néhémie quand il a prié à Dieu pour qu'il puisse avoir des gardes pour le protéger, pour aller reconstruire les murailles? Il priait Dieu devant le roi. Le roi aurait pu dire, non, écoute, je ne te laisse pas partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié tout de suite, il a fait une prière très rapide, un texto, si on peut dire maintenant, ça peut être comme le texto, ça va vite. Hein? Donc, il n'a pas envoyé un texto à Dieu, il a parlé directement. Puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une bonne réponse. La bonne réponse était que Dieu a permis que ces gens-là puissent agir en faveur de Néhémie pour la reconstruction des murailles. Donc, Dieu, frères et sœurs, est un refuge dans la détresse. Vous pouvez dire amen à ça? Oui, il est un refuge dans la détresse. Avez-vous déjà été au fond? Il dit, j'étais du sein de la détresse, au fond de la détresse. J'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. Avez-vous déjà vécu ça? J'ai déjà vécu ça. Par sa grâce, pas parce que je le mérite, parce que je suis pasteur de l'Église, ou parce que je suis ancien de l'Église. Non, nous sommes tous des enfants de Dieu, et dans sa grâce, il répond à nos prières du fond de la détresse. Donc je vous encourage, je nous encourage à prier Dieu, sachant qu'il va répondre à son temps. Un peu être au fond de la détresse quelques jours, quelques mois. Mais il répond toujours. Dans le cas du psalmiste, la cause de sa détresse peut faire aussi, il fait allusion à ses ennemis, et surtout les ennemis du peuple de Dieu. Donc, lisons le 10 à 14. C'est bon? On avance, comme le psalmiste. On dirait que c'est le psalmiste qui avance là, okay, dans cette célébration-là. Il avance vers, on va voir tantôt, vers l'autel, vers les sacrifices. Donc, il est en train de raconter la fidélité de Dieu. Il va à la rencontre de son Dieu. Donc, comme ce psalmiste, on avance vers ce message-là. Il dit, le verset 10, « Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignaient comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu m'es poussé fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. » Et c'est bon, hein? C'est beau entendre. Je suis devant vous, là, peut-être que vous n'entendez pas, mais je me dirais comme ce psalmiste-là qui est au milieu de cette réjouissance. Et je lis, puis il y en a qui répondent ici. Il y en a qui disent, au nom de l'Éternel, je l'éteins. J'imagine que ça a été comme ça. Nous, on l'entend quand je le lis là, mais waouh, imaginez ces jours-là. La grande multitude qui chante, il dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Donc, dans les versets 10 à 12, le psalmiste décrit une situation critique. Il est encerclé par toutes les nations, soulignant l'ampleur et la gravité de cette menace. Et je pense que le peuple d'Israël a été plusieurs fois dans cette situation. Non? On le voit au travers de l'histoire. Pour rentrer à la terre promise, quand ils sont rentrés à la terre promise, quand ils ont passé l'étape des juges, vous vous rappelez, et l'étape des rois aussi, les nations qui venaient. C'était une menace. Mais contrairement aux autres psaumes de reconnaissance, qui évoquent des fois des individus, là, des dangers personnels même, dans ces psaumes-là, l'auteur il désigne les nations comme la source de son affliction. Et cette mention des nations peut-être faire appel à quoi? À l'Exode. Qui était cette nation ennemie du peuple de Dieu? L'Égypte, qui ne laissait pas sortir, qui cherchait même à détruire, à anéantir le peuple de Dieu. Comme à l'époque de Moïse, la délivrance opérée par Dieu devient un fondement d'espérance. Et Dieu lui dit de célébrer la Pâque pour se rappeler de cette délivrance. Vous vous rappelez? Cette fête-là. Le psalmiste affirme à trois reprises qu'au nom de l'Éternel, il a abattu les nations. Au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces, ça veut dire que je vais les vaincre. Mais le verbe qui est utilisé là, je ne suis pas un expert en hébreu, hein, mais des fois je dis, mais pour qu'est-ce que cette expression-là, je les taille en pièces? C'est assez fort, non? Mais le verbe qui traduit dans c'est vraiment le verbe circoncire. Le même verbe, circoncire. Et ça me vient à l'idée, vous vous rappelez quand David, tu as 200 hommes, 200 quoi? Philistins. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a attaqués pour enlever leur prépuce, rapportant ainsi la victoire éclatante dans 1 Samuel 18, on l'a étudié il n'y a pas longtemps. Donc il est en train de dire, je les circoncis un peu comme David a fait à ses ennemis. Quels ennemis? Qui est ce peuple-là qui un peu symbolise l'ennemi numéro un du peuple de Dieu à l'époque, c'est les Philistins. Peut-être c'est pour ça qu'il utilise cette expression, je les taille en pièces, je le circoncis, ce peuple-là. Ce peuple est incirconcis, là, que des fois David, il disait, il parlait. L'idée exprimée dans ce psaume-là est donc celle de la victoire, une victoire totale, obtenue non par la force humaine, mais par la puissance du nom de l'Éternel. Ça vous arrive des fois de dire au nom des dieux, Seigneur, au nom, en ton nom, je me présente. Ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Au nom de l'Éternel, Seigneur, au nom de Jésus. Des fois, je fais des rêves. Hein. Demandez à ma femme, là. Des fois, je fais des rêves, un peu, des cauchemars. Et là, je lui fais peur. Mais, en tous les cas, mais des fois, je fais des rêves bizarres. Et dans mon rêve, je dis, Seigneur, au nom de Jésus, enlève-moi de cette... Et là, je me réveille. Mais c'est épeurant, là. Imaginez se trouver dans une situation difficile. Là. Des fois, nos rêves sont bizarres. Là. Bon, en tout cas, pour moi, peut-être vos rêves sont très beaux. Mais moi, des fois, mes rêves sont... Et là, j'ai dit au nom de Jésus, sauve-moi. Mais pas seulement pour ça. On se présente des fois à passer une entrevue. On se présente des fois, on est malade. On passe pour une situation difficile. Au nom de l'Éternel, Seigneur, aide-moi. Le nom de l'Éternel est puissant. Mais je ne suis pas en train de vous dire de créer, mettons, une habitude et dire une phrase magique, là. Non. Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, je suis devant toi, en ton nom, je dépose devant toi cette requête, Seigneur. Et il va nous donner la victoire. L'Éternel m'a secouru, il dit. Il est ma force. Il est mon champ. Il est devenu mon salut, c'est-à-dire, dans le contexte, il est devenu ma délivrance. Il m'a délivré de mes souffrances. C'est exactement la confession de Moïse. Vous voyez, ce psaume-là, il fait beaucoup d'allusions et même des paroles proches et même exactes. Même vous vous rappelez quand Moïse a chanté, est-ce qu'il était un bon chanteur, je ne sais pas, mais vous vous rappelez quand il y avait même le cantique de Moïse à Exode, dans Exode 15, pourquoi il a chanté, ils ont chanté? Parce qu'ils ont passé par la mer rouge. L'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. C'est ce qu'il dit Moïse dans Exode 15, 12. Exactement les mêmes paroles. Et la suite de ce psaume là, reprend plusieurs éléments du cantique de Moïse. Et célèbre la puissance de Dieu manifestée pour sauver les justes. Ceux qui croient, ceux qui le craignent. Donc, lisons 15 à 18. 15 à 18. Psaume 118. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je redirai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas délivré à la mort. Qu'est-ce qui se répète ici? La droite de l'Éternel. C'est ce que on voit aussi dans le cantique de Moïse. La droite de l'Éternel est puissante. Sa gauche est aussi puissante? Ben oui, sa gauche aussi. C'est une expression, la droite de l'Éternel, pour évoquer la puissance de Dieu. Quand il parle des tentes de justes, font probablement allusion aux chants qui s'élèvent au camp d'Israël. Peut-être après la grande délivrance, que vient de rappeler le verset 14. Les mêmes chants continuent à s'élever au sein du peuple, qui peut être appelé juste. Le peuple est appelé juste. Juste tant qu'il marche, selon la voie que Dieu trace. Donc le juste dans les psaumes, et on peut dire les chrétiens, on peut l'appliquer à nous aussi, le juste est reconnu par sa relation sincère avec Dieu. Il est humble, il reconnaît ses faiblesses et il discerne parfois dans ses détresses les conséquences de son péché. Le juste reconnaît ses péchés. Rappelez-vous de David qui a même écrit un psaume de son péché. Il sait que Dieu corrige. Il le dit, le psalmiste. Il m'a châtié. Il sait que Dieu corrige, mais il pardonne et il délivre de la mort. C'est pour ça qu'il dit, il est mon champ. Je ne mourrai pas, il dit, le psalmiste. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tout ça pourquoi? par la puissance de Dieu, par sa grâce. Il pardonne. C'est sous-entendu qu'il pardonne. Et dans le verset suivant, le psalmiste poursuit sa louange en exprimant le privilège que Dieu accorde aux justes. Et quel est ce privilège? C'est d'avoir accès à sa présence. Il célèbre l'Éternel qui écoute et qui répond aux prières. Même ce qui est rejeté par les hommes, Dieu restaure. De façon glorieuse même, prodigieuse. Donc, lisons les versets 19 à 23. 19 à 23. Là, le psalmiste, encore, il continue. « Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles, j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre qui ? Les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu. » Parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que tout cela est venu. Et c'est un miracle à nos yeux. Tout un verset, tout un passage, celle-là. Hein? Et l'expression de la pierre au milieu de cette louange, c'est quand même... mystérieux. Hein? Donc, de quoi il parle quand il dit Pierre? Et ces portes, il dit, symbolisent probablement l'entrée dans le sanctuaire, quand il dit les portes de l'Éternel, dans le contexte d'une dédicace ou d'un retour auprès de Dieu pour le culte, après l'exil, peut-être. Le peuple, longtemps privé du temple à cause de son péché, retrouve l'accès à Dieu, et non à cause encore de leur justice, mais à cause de la grâce, à cause de la fidélité de Dieu qui a répondu aux prières. Donc le psalmiste reconnaît que Dieu répond et délivre, sauve. Il est mon salut, il dit. Il ne se glorifie pas de son courage ou de ses œuvres, mais il célèbre l'intervention de Dieu envers lui, dans un esprit de reconnaissance à lui. Et le verset 22, il dit, ensuite, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Qu'est-ce qu'il veut dire avec cette expression? Pour nous, nous la connaissons, hein? Et nous l'avons déjà entendue, on va le voir tantôt dans le Nouveau Testament. On sait de quoi il parle, mais à l'époque, qu'est-ce que ça signifie pour le peuple de Dieu de dire cela? Oui, Ésaïe a déjà parlé d'une pierre précieuse qui va, c'est le fondement qui va... Il va établir à Sion, il dit. Est-ce qu'ils ont compris exactement qu'il parlait du Messie? Probablement, il y a quelques-uns qui ont compris. Mais l'expression est spéciale quand on voit la pierre qui a été rejetée. Ça peut peut-être désigner le peuple d'Israël lui-même, autrefois humilié, okay, moqué, brisé, mais Dieu l'a restauré, remplacé au cœur pour son projet, pour son plan. Ça peut être un roi aussi, peut-être. Plusieurs des rois ont été rejetés aussi, David même. Mais il dit que dans les prophètes, il dit, j'établirai David comme roi, mais David est déjà mort. Donc il parle vraiment du Messie qui vient de la lignée de David. Et nous savons qu'au retour de l'exil, le peuple fut empêché de reconstruire le temple par la main de ses ennemis. Mais malgré l'opposition, Dieu dans sa grâce intervient. Lisez Esdras, mettons. Intervient pour le peuple. Et il reconnaît dans la restauration, le peuple reconnaît dans la restauration du temple une œuvre merveilleuse de Dieu. Encore là, dans Esdras, nous lisons dans Esdras 6, là, les Israélites, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des anciens déportés firent avec joie, il dit, l'inauguration de cette maison de Dieu. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain. Car l'Éternel les avait réjouis en inclinant vers eux le cœur du roi d'Assyrie. Waouh, c'était un miracle à leurs yeux. Le fait que Dieu avait tourné le cœur de ce roi-là à leur faveur. Donc ils célébraient ça. Et Dieu soutenait l'œuvre de la maison, sa maison, envers Israël. Donc ce rejet qui avait vécu le peuple devient alors un témoignage de sa fidélité. Il dit, le psalmiste dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un miracle. C'est un miracle à nos yeux. Avez-vous déjà vécu des miracles de Dieu dans votre vie? J'espère que oui. J'en ai vécu, oui. Des choses que des fois on pense que c'est impossible. Je peux vous dire plusieurs même. Et Dieu exauce. Même à nos yeux, des fois, c'est impossible. Mais Dieu répond, mes frères et sœurs. Il est notre rocher. Il est le Dieu puissant. Il veut qu'on lui demande ça. Il est fidèle. Le chrétien, le juste, le croyant n'est pas celui qui prétend mériter l'accès aux portes de Dieu, à l'accès de Dieu, à avoir accès à Dieu, mais celui qui reconnaît avoir été sauvé, délivré, à cause de sa bonté, sa bienveillance, sa grâce. Donc Dieu peut relever ce qui est, ce qui est méprisé. Paul le dit aussi, restaurer ce qui était détruit et faire de ce qui était rejeté un fondement solide. Il l'a fait avec l'Église. On va le voir dans quelques versets. Donc le psaume se termine dans une explosion, si on peut dire, de joie et de reconnaissance. Allons donc verset 24 jusqu'à la fin, 29. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Éternel accorde le salut, Éternel donne le succès. En fait, c'est ça qui a donné le mot Hosanna, en hébreu. C'est ce qui sonne là-dedans, c'est comme Hosanna. Sauve, Éternel, sauve-nous. 25. Éternel accorde le salut, Éternel donne le succès. C'est-à-dire, c'est en train de dire Hosanna. Avant, je disais Hosanna dans mon espagnol. Mais là, je sais que c'est Hosanna. On m'a repris quelquefois. Mais là, j'ai appris. Hosanna, ça veut dire sauve-nous. Et le 26, il dit béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Ça résonne à vos oreilles, cette phrase-là, béni soit. Quand est-ce que vous l'avez entendue, celle-là? Oui. Verset 27. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Jean, évangile de Jean. C'est lui-là, la lumière. De qui il parle? De l'Éternel? Oui. De Jésus? Oui. Dieu fait chair? Oui. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez des branchages, c'est difficile ces mots-là, au cortège de fêtes, d'autres c'est écrit pour le sacrifice, jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te célébrerai, mon Dieu, je t'exalterai. Et le 29, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Il finit de la même façon qu'il a commencé le psaume. Ça boucle la boucle, comme on dit à mon québécois. Ça ferme bien le verset, cette louange-là. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un jour d'allégresse et de joie. Après la détresse, le rejet, le combat vient, quoi? Le salut de Dieu. Le psalmiste appelle tout le peuple à se réjouir pleinement dans l'œuvre du Seigneur, dans l'œuvre du Sauveur. La délivrance n'est pas seulement personnelle, elle est de tout le peuple, collective. On bénit celui qui vient au nom de l'Éternel, verset 26. On célèbre sa lumière. On loue Dieu parce que sa bienveillance dure à toujours. Voici la journée que l'Éternel. On était hier dans un mariage. Hey, les larmes tombaient de mes yeux quand j'ai vu passer mon frère Loïc. Waouh, il était content, sa joie, il s'était manifesté dans son visage, là, c'était émouvant. Puis les gens criaient, le peuple, l'église, là. C'était bon, c'était un temps de réjouissance, une belle journée. Puis c'était un jour de joie. Avez-vous eu des jours de joie dans votre vie? Ok, oui. On va parler tantôt d'un jour, d'un grand jour de joie. Donc, le psaume 118 n'est pas seulement un psaume de louange, c'est aussi un psaume prophétique. On appelle des fois messianique. Il nous révèle le plan de Dieu. mais centré en Jésus seul, le Messie, qui est rejeté par les hommes. Il a été rejeté, oui, il a été rejeté, on s'est souvenu tantôt, mais exalté par Dieu. Ben l'a dit tantôt, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il annonce, ce psaume-là, il annonce le salut, la victoire, et la pierre vivante qui devient le fondement d'un nouvel édifice, maison spirituelle. Et j'ai bien dit spirituelle. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale. Et c'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un miracle à nos yeux. Ce verset est cité par Jésus lui-même dans les évangiles, en parlant de lui lui-même. On ne va pas aller voir tous les versets, mais Matthieu 21, Marc 12, Luc 20, il l'utilise pour annoncer son rejet même. Il va souffrir par les chefs d'Israël, mais il le cite pour aussi parler de son élévation par Dieu comme pierre angulaire après sa résurrection. Il est réutilisé aussi par l'apôtre Pierre dans 4:11, acte 4:11, juste au début de l'Église, pour proclamer que Jésus est le seul fondement de la foi. Il est encore cité, oui, Pierre parle dans acte des apôtres, c'est lui qui raconte ces événements-là, mais Pierre même, quand il écrit sa première épître, il le mentionne ici dans 2:7, pour montrer que les croyants se rassemblent autour de Christ, la pierre vivante. Le verset 26, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, acclamé par la foule. » Lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, vous vous rappelez, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les quatre mentionnent le psaume 118 par ces mots-là. Béni celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est une reconnaissance messianique. Jésus est celui qui vient au nom de l'Éternel, envoyé pour accomplir quoi? Le salut de nous tous. Et le psalmiste, il dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Je crois que Jésus même savait ça quand il a chanté. Il allait le délivrer, mais pourtant, il devait passer par la mort. Mais il savait que Dieu allait le délivrer la mort. Il est repris aussi dans Hébreux 3, 6, ce verset-là, pour encourager les croyants à mettre leur confiance en Dieu. Dans l'épreuve, il existe aussi dans le Nouveau Testament des allusions indirectes du psaume 118. Les expressions de louange et de délivrance de ces psaumes-là sont accomplies en Jésus, source véritable de délivrance. Dans 1 Pierre 2, 4 à 5, nous lisons, les croyants, il dit que nous sommes comme des pierres d'un édifice. Il dit, approchez-vous approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie. Et moi, j'aime l'expression qui écrit Pierre là. Il dit, mais choisie est précieuse devant Dieu. Et vous-même, il dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, en union avec Christ, la pierre de l'angle, les croyants sont appelés à former un édifice saint, un peuple racheté par Dieu. Vous avez été édifié, dit Paul, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même, étant la pierre de l'angle, il dit. Et lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour une habitation de Dieu en esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes l'Église. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple de Dieu et nous avons été édifiés sur le fondement de Jésus-Christ, la pierre parfaite, précieuse. Donc l'Église est présentée comme un temple spirituel bâti sur Christ et sa parole par l'Esprit, selon ce que nous dit Éphésiens. On peut reconnaître la bonté de Dieu en Jésus. Dieu a montré sa bonté suprême en nous sauvant par grâce. On peut reconnaître que Dieu est un refuge à la détresse. En Jésus, il est notre refuge. Il est l'avocat fidèle. Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La victoire face aux ennemis en Jésus, il nous donne la victoire sur le péché, sur la mort. Et sur qui? L'ennemi numéro un, sur Satan aussi. Il nous donne la victoire. En Jésus, sa résurrection démontre la puissance de Dieu sur ses enfants, sur les justes en fait. Il est notre avocat et il intercède. En son nom, nos prières sont exaucées. En Jésus, la pierre rejetée devient le fondement de notre salut. En Jésus, sa victoire remplit nos vies de joie et de louanges. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, qui est en train de parler? C'est Jésus qui a vécu la même chose que nous, les mêmes souffrances. Il a vécu comme nous, il est Dieu, mais il était homme aussi en même temps. Il peut nous comprendre. Dans Hébreux, il nous dit ça, là. Et dans des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire Dieu, lui-même, son Père, en ayant été exaucé à cause de sa piété, et après bien qu'il fut fils d'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a obéi, son Père. Il a passé par les mêmes souffrances que nous. Donc, en conclusion, ce psaume, non seulement c'est une louange, mais c'est l'espérance d'un salut éternel accompli dans la mort et la résurrection de Jésus, notre Sauveur. Voici, je vais finir avec les paroles de l'apôtre Pierre au début de l'Église que j'ai mentionné tantôt. Actes 4, 11 à 12. Il est en train de parler aux Juifs qui se sentent comme coupables parce qu'ils ont crucifié le Sauveur. Il dit, c'est lui, il dit, Pierre, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est quoi ce nom-là? Jésus seul peut être sauvé. Donc, concluons par le verset 29. Tous en même temps, s'il vous plaît, selon votre version, et lisons le verset 29. Célébrez, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Louez, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté dure à toujours. Amen.